pluie viendra remplir les trous d'eau. Tant qu'il y aura des larmes qui viennent avec.
Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de premier et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 10 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. On vous attend!
Salut, ici Phil Lacroix. Le mardi 14 octobre, j'anime le lancement du troisième album du groupe The Garlics au Théâtre Plaza à Montréal. Rends-toi sur thegarlics.com et télécharge ton billet gratuitement. Le 14 octobre, assiste au spectacle et reçois 5$ de rabais chez FF Pizza. De quoi te payer une bonne pizza. Je t'invite donc à vivre l'expérience The Garlics le mardi 14 octobre au Théâtre Plaza.
La vie est trop courte, j'ai la vie sans aucun doute.
Pour sa 43e édition, le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal accueille plus de 300 films de 55 pays. Du 8 au 19 octobre 2014, le cinéma à son meilleur vous attend. Venez découvrir pendant 11 jours des courts et longs métrages de créateurs québécois, canadiens et étrangers. Des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des soirées, des conférences et des rencontres. De plus, participe au concours Choc pour gagner ton accréditation étudiante en visitant choc.ca. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.nouveaucinema.ca. Le FNC, ça se déroule du 8 au 19 octobre prochain.
Ici Eve Landry, porte-parole de la 20e édition du festival Vue sur la relève. T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène? Tu as jusqu'au 26 octobre pour le soumettre à vuesurlarelève.com. Vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion aux premiers spectacles d'Alex Nevsky, Fred Pellerin, Carquois, Mélanie Demers et tant d'autres. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, le 20e festival Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
Podcast, musique, découverte.
Sur choc.ca.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Oh yeah, bienvenue aux Oubliettes, chères créatures de la nuit, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Cette semaine, on a un gros show, ça déborde, c'est notre deuxième épisode, ça va faire mal. Alors je me présente votre animateur Simon Predge, et je suis en compagnie de mon co-animateur Olivier, comment vas-tu?
Je vais super bien, bon vendredi tout le monde.
Bon vendredi. De quoi tu nous parles aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous parle d'un petit film français. De 83, Le démon dans l'île.
Oh oui, moi je vais vous parler, j'ai bien trop de stock en fait aujourd'hui, moi je m'énerve. Je vais vous parler de Samedi le 14, la suite, un film complètement dément, mais je vous jure que c'est pas vrai. Et j'ai aussi, comme VHS insolite, on va commencer un petit tour d'horizon des les cassettes VHS d'anthologie d'horreur, les espèces de compilations de scènes d'horreur. Puis comme VHS insolite, aujourd'hui j'ai amené une petite cassette chrétienne de manipulation pour faire croire que l'Halloween, c'est le démon. Mais avant toute chose, on a un invité cette semaine. Je suis bien content qu'il soit avec nous autres pour le deuxième épisode. On l'accueille, Marc Lamotte. Bonsoir. Bonjour, Marc.
Plutôt. Bonjour, oui.
Marc est programmateur au Festival Fantasia, collagiste vidéo, collectionneur qui nous a offert une myriade de DJ XL5 Zapping Party, collaborateur aussi à divers festivals tels que Spasm. Oui. C'est pour ça que tu es avec nous autres aujourd'hui. Wow! Quelle programmation se passe cette année? Moi, je capote. J'ai vraiment hâte. On va en parler. Ça commence en force, hein. C'est le Festival Spasme, c'est la 13e édition, hein, donc elle va porter chance. Ça se passe du 23 octobre au 1er novembre. Et ça commence avec une soirée spéciale, sexe. Ooh. Et c'est pour ça que tu es avec nous autres, hein, une soirée dévouée au plus célèbre des sept péchés capitaux. Oui. Mais mettons, là, on va pas présumer que tout le monde connaît bien le Festival Spasme, hein, même si c'est la 13e édition. Comment tu nous résumerais, mettons, le festival à un néophyte?
C'est un festival qui a commencé en 2002, qui se spécialisait au début dans le cinéma de genre, parce que c'est ça l'amour profond qu'ont les organisateurs initiaux du festival. Donc, qui se concentrait sur l'horreur, sur la science-fiction, sur le combat, sur l'action. Toujours made in Québec, toujours en français. Et au fil des années, pour toutes sortes de raisons, les organisateurs de Spasme ont décidé de rendre hommage à certains pays ou à s'ouvrir à certains longs-métrages français, ou en tout cas à multiplier un peu l'offre. Mais dans l'essence, dans l'esprit, ça reste quelque chose que je pense qui est essentiel parce que ça donne une vie sociale à du monde. Ça donne surtout que, tu sais, il y a peu de tribunes pour le court-métrage, ouais, à Montréal ou au Québec. Tu sais, c'est pas les rendez-vous du cinéma québécois qui vont pouvoir se concentrer sur ce genre de cinéma-là. C'est pas les FNC, c'est pas les FFM. Puis et pourtant, la génération des réalisateurs qui sont en train en ce moment de créer des films, c'est des gens qui ont grandi sur le cinéma de genre puis qui aiment le cinéma de genre. Fait qu'en quelque part, un film existe quand il est vu. Et Dieu merci, grâce à Spasme, il y a des centaines de courts-métrages à chaque année qui sont vus puis qui existent puis qui ont même créé des stars. Je pense à Roadkill Superstar le Bagman. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'exemples comme ça de réalisateurs qui se sont construits une carrière après avoir eu une belle réception dans des festivals comme Spasme. Et donc, c'est essentiel. Puis en plus, ce qui est unique avec Spasme, c'est que c'est des soirées un peu dans le style cabaret. Il y a de la bière, il y a du plaisir, il y a de l'animation.
Une super ambiance.
Il y a quelque chose de très cabaret, puis fait que ça devient une expérience en soi qui dépasse le simple fait de regarder des films. C'est axé sur... Écoute, un festival, c'est une expérience collective où des gens se réunissent ensemble comme c'est un gros divan de 500 places, puis ils trippent ensemble. Puis je trouve que Spasme a réussi à développer ça, mais surtout,
party.
Ils ont réussi à le maintenir.
Oui, effectivement. Mais tu sais, faut pas oublier que les films de genre, c'est ce que les jeunes vont faire avec la caméra de papa quand ils commencent. Là, ils font pas des drames sentimentaux, des triangles amoureux. Là.
Xavier Dolan, peut-être, oui.
Bon, Xavier Dolan. Ouais, mais on n'en parle pas de lui ici. Mais c'est ça, on commence avec des films d'horreur, avec de la science-fiction cheap, puis des lasers, puis du blob. C'est avec ça qu'on commence. C'est l'essence même, je pense, de ce qui lance nos jeunes réalisateurs, du moins au Québec. Fait que moi je salue Spasme et je trippe sur Spasme justement pour ça. Ça amène une belle visibilité à notre relève. Hein. Mais là, cette année, on commence avec un thème qui n'a jamais été approché vraiment par le Festival Spasme. On commence en force avec la soirée sur le thème du sexe. Ça met le ton. Toi qui participes à la soirée, à quoi s'attendre de cette soirée érotique?
Ben des come shots, probablement. Non, je ne sais pas.
Bon vendredi matin.
Écoutez, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'humour. Je pense que c'est une façon pour les gens non pudiques d'aller rire, d'aller s'amuser avec le sujet. Certains seront probablement plus explicites et plus sérieux, donc seront probablement plus rigolos et niaiseux avec ça. Puis c'est ça qui est beau, comme tout genre, ben la sexualité en tant que sujet peut aller dans toutes les directions, de la comédie à l'introspection, au questionnement sur l'identité. Je veux dire, c'est large comme sujet. Et de ce que j'ai vu de la programmation, ça a l'air très varié, justement, puis c'est ça la beauté de la chose. Donc, c'est plusieurs façons de parler ou de réfléchir sur la question ou la situation.
Ça va être intéressant. On a des courts-métrages de France, on a des courts-métrages québécois, forcément. On a même des courts-métrages du Portugal. Je pense que ça va être vraiment trippant. Mais toi, ce que tu viens de nous présenter, en fait, c'est un montage sexe avec 3X.
Oui.
Une collaboration que tu as fait avec Isabelle Grondin. Elle devait peut-être faire partie de l'émission, finalement. Elle n'a pas pu. Hein? Elle est tellement en demande, cette Isabelle. Une réalisatrice de grand talent, hein, qui a lancé beaucoup de courts-métrages lors de Spasme. Oui. Donc, si je comprends bien votre montage, c'est un peu l'évolution du sexe à travers le cinéma québécois, c'est ça? Du tout premier baiser jusqu'au premier sein qu'on a vu à l'écran.
Exactement. C'est qu'on... Isabelle avait été invitée il y a quelques années à organiser un événement qui s'appelait un cabaret sexe. Et pour closer la soirée, on avait décidé d'organiser un montage. Puis c'est Isabelle qui était l'initiatrice du projet, où elle voulait faire comme un recensement ou comme un festival des meilleures scènes de sexe, certaines drôles, certaines explicites, mais aussi intégrer là-dedans des dialogues gnochons qui parlent de cul avec des jokes de mon oncle. Donc, puis bon, elle, elle me disait... Tu sais, je connais bien le contemporain, mais pour ce qui est du côté historique, j'aimerais ça voir si tu peux pas t'en mêler un peu. Puis en même temps, avec la stratégie Zapin, on avait une façon intéressante, je pense, de présenter l'histoire ou le projet. Donc, effectivement, donc on y a réfléchi, on a regardé, on a fait des recherches. C'est 3 mois de travail, en fait, ce projet-là. Puis effectivement, juste de trouver où était le premier baiser dans le cinéma québécois, c'était quelque chose qui n'était pas évident.
Ouais, c'est pas facile.
Pour ceux qui se posent la question, ben, c'est Un homme et son péché, 1949, et c'est un French chronométré de 47 secondes. Alors, quand même.
Wow, OK, quand même.
Pleniel, 47 secondes, 1949. mais après ça, il faut attendre 20 ans pour avoir, avec Valérie, avec Denis Héroux.
Ouais. En 69.
Roux, écoute, ce film-là, Valérie, au-delà d'être un film qui a lancé le genre en soi, qui est l'exploitation du le sexploitation, comme on dit en anglais, c'est un film qui a révélé une industrie, le cinéma indépendant. Il n'y avait pas de Sodec, il n'y avait pas de téléfilm. Fait que ça a vraiment développé une façon de faire des films. Moi, j'ai un respect énorme pour Denis Roux, ce qu'il a fait, ce qu'elle allait devenir. Ça allait être le créateur d'Alliance Viva Film. Ça allait être par un type qui a produit des coproductions internationales vraiment extraordinaires, comme La guerre du feu.
C'est vrai.
Puis pour lui, ben, tu vois, Valérie avait un sous-texte, avait un sous-propos qui était intéressant parce qu'il disait que Valérie symbolisait le Québec. Bon, c'est une jeune adolescente qui est dans un collège religieux. Elle fuit la religion, elle fuit le couvent où elle est avec un T-shirt du Québec, pas de soutien-gorge en dessous. Puis à partir de là, ben, c'est ça, il y a tout l'aspect où on réfléchit sur la colonisation en faisant des parallèles avec la prostitution pour finalement devenir émancipée. Vu de même, c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a voulu faire? Bon, seule l'histoire le dira. Mais ça, écoute, ça l'a ouvert. Puis bon, dans les années 70, on l'a vu, c'était des comédies niaiseuses, des comédies de sexploitation. Tu sais, où tu penses que je mets Gilles Latulippe puis Jeannine Souto dans des films, dans des comédies érotiques, comme si c'était bandant ou excitant pour quelqu'un.
Jeannine Souto qui est vieille depuis 50 ans.
Tu sais, on parle de Deux femmes en or, de l'initiation, de 7 fois par jour, les chats bottés. Mais ce qui est beau, c'est de voir que la sexualité, très rapidement, puis c'est là qu'on voulait aussi amener le propos, était déjà présent dans des films artistiques comme, par exemple, Mon oncle Antoine en 1971, Gina de Denis Arcand, 1975, La tête de Normande Saint-Onge, L'œuvre de Gilles Carle en général.
Léo Lowe, quand il fourre le chat sur la table.
Oui, voilà. Puis on pense à Scandale de Georges Mialka, ouais. 1982. Puis finalement, ben, ce qu'on découvre, c'est que dans les années 70, la sexualité, c'est quelque chose qu'on gérait pour exploiter finalement financièrement quelque chose. Puis dans les années 80, c'est là qu'on réalise qu'on absorbe la sexualité au cinéma québécois. Parce que là, on ne parle pas de porn, on parle de cinéma populaire.
Ouais, c'est ça. Là.
Donc, à quel point c'est devenu quelque chose qui s'est intégré dans des films comme Léo Lowe que tu mentionnais, comme Bing Along with Claude, comme Liste noire, ou même si le sujet du film peut parfois être sexuel, ben, on a trouvé une façon, je trouve, raisonnée de dealer avec ça. Donc, c'est un peu cette évolution-là qu'on voit, donc de la gêne à l'exploitation, à l'intégration culturelle.
Ouais.
Mais tout ça en se concentrant sur... écoute, ça dure 20 minutes, c'est joyeux, c'est festif, c'est drôle. C'est des extraits qui vont entre 30 et 60 secondes et ils sont intercoupés de statiques, comme si on changeait de poste.
Comme si on zappait devant la TV.
Voilà, donc Space va vraiment se transformer dans un divan où c'est nous qui avons le contrôle de la manette, puis ensemble, on va zapper pendant 20 minutes. Puis le câble sur lequel on a accès, ben, c'est les meilleurs films québécois qui comprennent des scènes érotiques.
Ah, ben dans ce cas-là, je vais peut-être venir avec mon pyjama le plus sexy d'abord.
Mais on invite tout le monde. Pyjama et boîte de Kleenex.
Mais moi, j'ai la liste des films que tu présentes, tu viens de me dire en 20 minutes, puis je capote, là, ça va aller vite en tabarnouche. Il y a du stock de 1949 à 2008. Ça va être écœurant. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis surtout qu'on sait qu'il y a eu une grosse histoire de censure au Québec. Ben, il y en a eu partout. On se rappelle à l'époque, les premiers films, là, je me rappelle plus du titre, où c'est carrément l'Église puis les évêques qui censuraient les baisers à l'écran, qui retournaient des scènes pour censurer les finales où ils devaient s'embrasser devant le soleil, changeaient ça par une lettre ou une petite scène rapidose qui faisait aucun sens.
Les gens se plaignaient. Merci, on a créé la régie du cinéma qui a réglé le problème une fois pour toutes, parce que c'est pas à l'Église de décider qu'est-ce qui est convenable ou non. Puis une démarche artistique reste une démarche artistique. On peut toujours questionner, elle est fondée ou non fondée. Mais la régie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout simplement, puis c'était la façon la plus logique de régler ça, c'est-à-dire, ben, un film est pour tous, 14, 18 ou 18 avertis. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a plus de films qui ont été mis à l'index au Québec. Ils sont listés, ils sont cotés, mais ils ne sont plus. On n'a plus le pouvoir de retirer un film. Des fois, ça donne des aberrations ou un film qu'on aimerait qu'il soit vu par des adolescents et coté 17 ans et plus.
Ça arrive.
Ben après ça, ça reste le jugement. On peut être d'accord ou pas d'accord avec les choix de la régie, mais au moins, on vit dans une société où aucun film n'est censuré.
Ouais,
et okay. Ça, pour moi, c'est la force de la régie du cinéma.
Oh oui. Moi, je me demande, en fait, là, quand... Bon, j'en ai déjà fait des montages vidéo seul. Donc là, moi, je suis curieux de savoir comment a fonctionné votre collaboration dans le travail. Qui fait quoi, finalement, entre toi et Isabelle Grondin? Qui s'est investi à quel niveau?
C'est vraiment un travail d'équipe où je te dirais que c'est le genre de cas où on est 50-50, puis je pourrais pas dire qui a choisi qui ou qui quoi. On a beaucoup travaillé à s'échanger des listes au début, puis à s'échanger des scènes. Hey, moi, je verrais celle-là, moi, je verrais celle-là. Puis ensuite, à la table de montage, ben, on s'est dit l'important avec ce montage-là, ce n'est pas d'être exhaustif et de tout montrer, mais l'important, c'est de montrer ce qui est représentatif de chaque tendance ou de chaque style de cinéma. Donc, à partir de là, on a fait des « Ah, ben ça se répète, ça, on le levait avec ça. » Fait que ça a été assez simple, ça a été assez facile. Donc, puis j'en profite pour remercier Éric Boisvert, donc Olaf Svensson ou DJ Ryback, il y a plusieurs
DJ
noms.
DJ Ryback est ton monteur.
Oui, voilà, qui est mon monteur, qui a beaucoup aidé aussi parce que le monteur, c'est aussi le moteur. Parce qu'à un moment donné, quand ça fait trois mois que tu travailles avec du matériel, tu sais plus qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et le monteur, c'est un peu comme le premier spectateur qui, lui, réagit à ce qu'il voit. Fait que t'as comme, il y a quelque chose que, en tout cas pour moi, je pourrais pas travailler seul sans monteur. Puis Éric, dans ce cas-là, tout comme Isabelle, a été d'une aide essentielle. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et tous les membres de l'équipe ont contribué à faire de ce montage-là quelque chose d'excitant. Moi, il y a certains films que je connaissais pas qu'Isabelle connaît et vice-versa.
Ouais, ouais.
Donc c'est là aussi que la collaboration est devenue riche. Mais surtout, c'était la première fois moi aussi que je collaborais sur un montage avec quelqu'un d'autre. Puis j'ai réalisé avec beaucoup de bonheur que ça avait été facile comme démarche.
Cool, cool. Ça avait été diffusé en 2009. Ça a été diffusé dans quel cadre, ça?
En 2009, au Rendez-vous du cinéma québécois pour un événement qu'ils avaient organisé dans leur cabaret qui s'appelait le cabaret sexe, oui. Ça a été repris l'année d'après en programmation régulière dans un bloc de court-métrage. Puis écoute, ça s'est promené dans divers festivals en France, en Italie. On est chanceux. Regarde, c'est un sujet qui est intéressant. C'est un sujet qui est universel.
Ouais.
Puis parce que beaucoup des scènes n'ont pas de dialogue, bien, c'est facile
de le
promener. Que ce soit
international,
en Espagne, au Portugal,
ça,
ou... écoute, on est chanceux, puis ça démontre qu'il y a un intérêt pour ce sujet-là à travers le monde.
Ouais, ben, j'avoue que c'est un avantage si c'est relativement muet. Hein. C'est rare qu'on parle la bouche pleine. Lol. Moi, je suis curieux de savoir, on va en profiter pendant que tu es là, Marc, parce que, bon, il y en a qui te connaissent plus sous le nom de DJ XL5. Hein.
Oui.
Moi, je suis curieux de savoir, as-tu déjà des idées pour tes prochains DJ XL5 Zapping Party? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
Oui, ben à chaque année, je fais un programme de court-métrage, donc ça, c'est sûr que ça revient. Je mets ensemble une trentaine de court-métrages qui durent de 30 secondes à 3 minutes.
Pendant
tout ça d'extraits de films, tout ça pendant Fantasia. Puis à chaque année, je rends hommage à soit un genre ou à un style. Bon, j'ai parlé dans les années passées, on a fait le Bollywood, on a fait le cinéma de genre italien, on a fait le cinéma mexicain de genre. Cet été, on a rendu hommage au Blaxploitation, donc l'afro-américain.
Ah, oui. C'était tellement bon.
mais c'est un travail énorme. T'sais, juste le Blaxploitation, il a fallu que je me tape presque 200 films pour en retenir 80, puis choisir les scènes. Puis bon, le premier montage durait 3 heures. J'ai dû ramener ça à moins de 2 heures. Fait que c'est très prenant. Cette année, on a une idée d'un concept avec que je co-réaliserai en fait avec Olaf Svensson, donc DJ Ryback. On veut rendre hommage au cinéma d'exploitation des années 60 et 70.
Oh,
on va monter ça comme un grindhouse, donc ça va être un programme double. Moi, je vais réaliser un des volets, puis Éric va réaliser l'autre volet, puis on va être coproducteurs de l'événement tous les deux. Donc, moi, je vais rendre hommage à l'exploitation et lui va rendre hommage à la sexploitation. Tout ça va être présenté dans un programme d'autres Grindhouse, comme ça se faisait dans le temps. On va mettre beaucoup l'emphase sur des bandes-annonces de films que les gens connaissent peu, mais qui sont très rigolos. On va rendre hommage aussi à certaines scènes clés de films d'exploitation, certains importants, certains méconnus, certains très connus. Puis c'est ça qui est le fun avec ces appels-là, c'est que tu rassures les gens en leur montrant des choses qu'ils connaissent, puis qu'ils sont contents d'en voir, d'en découvrir ou de partager avec un vaste public. Mais il y a une place aussi qui est laissé à la découverte.
J'ai vraiment hâte.
C'est clair.
Là, il faut traverser l'hiver. Là. C'est bien long.
Ça va être long.
Ah, OK. Bon, faut être un peu patient. Puis en plus, toi, tu travailles beaucoup avec des VHS, hein, je pense. Tu es un collectionneur de VHS toi-même?
Je suis collectionneur de films. Puis
en général,
c'est ça. Le VHS, pour moi, je suis pas amoureux du VHS. J'aime l'idée qu'il y a certains films qui sont pas disponibles en DVD, qu'on peut trouver sur le VHS. Mais si j'ai le choix entre le VHS et le DVD, je vais probablement aller pour le DVD. Pour moi, le VHS est au cinéma ce que le 8 track est à la musique. C'est-à-dire que c'est un média qui est le fun, qui est nostalgique, qui représente une vie pour certaines personnes. Mais, fait que oui, écoute, puis c'est toujours la joie de découvrir dans un marché aux puces, dans une vente de garage, une VHS avec une boîte douteuse à 1$. Tu peux pas résister, tu prends ça. Puis oui, puis le plaisir d'un travail de DJ, ben puis pourquoi je m'appelle DJ, c'est parce que quand t'entends une bonne tune, t'as hâte de la respiner, t'as hâte de la partager au monde. Fait que c'est vraiment axé sur l'idée du partage, puis l'idée que, pour moi, de collectionner VHS qui ramasse de la poussière puis de garder ça pour moi, je trouve ça un peu égoïste, puis je trouve ça dommage. Fait que mon mandat, mon but, c'est de créer un univers qui est à mi-chemin entre le nostalgique puis le moderne. Puis c'est de repartager, comme un DJ aime spinner des tunes, c'est de repartager aux gens pour être sûr que ces découvertes-là ne restent pas chez nous, mais qui continuent de vivre, qui continuent d'exister. Puis c'est de l'entertainment. On divertit le monde pour pas cher, t'sais.
C'est exactement ce que je voulais t'entendre dire.
Oui.
Merci, Marc.
C'est bien ça.
Hey,
merci.
Fait que là, on vous rappelle les dates du Festival Space, mais ça va avoir lieu du 23 octobre au 1er novembre. Ça se passe au Théâtre Plaza sur la Plaza Saint-Hubert. C'est au 6505 Saint-Hubert à Montréal. Et là, on vient de parler, en fait, ça va être pour la soirée d'ouverture spéciale sexe. Ça va avoir lieu le jeudi le 23. Les portes ouvrent à 19h. Le show est à 20h. C'est 10$ en pré-vente sur le site web. 12$ à la porte. C'est 18 ans et plus, hein? J'ai pas besoin de vous le dire. Toutes les infos se trouvent au www.spasme.ca. Merci beaucoup, Marc Lamotte, d'être venu nous voir.
Merci.
Puis en plus, tu nous as amené une belle petite tune érotique, une tune de Georges Tremblay.
Georges Tremblay, c'est un album qui s'appelle Corps à corps. Lui, il avait une émission à l'époque du disco, à la fin des années 70, sur Ciel MF, qui est une station de radio à Longueuil. Lui, c'est une émission qu'il animait en fin de soirée, puis il se prenait un peu pour le Barry White québécois. écoute, c'est mythique comme émission si vous étiez, pour ceux qui ont un certain âge, mais je peux partager ce moment-là avec vous. Donc, c'est une chanson qui s'appelle « You Taught Me ». C'est lui qui apprend le français à une anglophone. Le reste parle de lui-même. Je te laisse partir la chanson.
Ça va écouter ça. Merci encore, Marc.
Ouais, c'est ça. Approche-toi de moi. Tu ne comprends pas ce que je dis, mais tu vas voir. Je vais te donner ce que tu veux. Amène-toi plus près. Comme ça, on dit, je te déshabille.
Déshabille.
Et comme ça, on dit, je te caresse.
Caresse.
Comme ça, on dit. Oh, mais je ne savais pas que les Anglaises étaient aussi gourmandes. Tu es belle, laisse-moi faire. Mais non, mais oui. Je te veux.
Oh yes. You turn me on speaking love.
Ne parle pas tout le temps. Tu embrasses si bien. Touche-moi un peu. Ah, tu caresses si bien. Donne-moi ta langue. Oh, descends. Je voudrais me perdre dans ta bouche. Viens, viens sur moi. Oh, tu bouges bien. Oh, tu bouges bien. Pas besoin de parler la même langue pour se faire l'amour. Suffit que nos langues se mêlent. Avec toi, c'est si bon.
You taught me how to speak in love.
Comment te faire comprendre que je veux te revoir?
Facile, tu m'as si bien parlé d'amour.
Mais
c'était merveilleux.
Je veux que tu me parles encore d'amour.
Oh boy!
C'est de toute beauté. Merci, Marc, de nous avoir amené ça. C'était magistral. Bon, là, c'est le temps de jaser de qu'est-ce que moi j'ai regardé cette semaine. C'est un film que j'ai vu un petit peu trop souvent pour un film jeunesse. On parle ici de Samedi le 14, un film complètement dément. C'est un plaisir coupable, hein, parce que le public cible est beaucoup plus jeune que moi. C'est un très mauvais film, mais que j'affectionne tout particulièrement. Donc, c'est Samedi le 14, mais la suite, hein. C'est pas le premier. pardon. Un film de, américain de 1988 qui a été réalisé et scénarisé par Howard R. Cohen. 6 réalisations, mais c'est beaucoup plus un scénariste. Il a dirigé des films comme Space Raiders en 83, Time Trackers 89, Death Stalker 4, Space Case. Mais il y a des scénarios de trucs un peu plus connus comme des cartoons rétro aussi. Jace et les concurrents de la lumière, Rainbow Brights, des films comme Barbarian Queen en 85, Death Stalker, Striker, Emmanuel 5 en 87, c'est pas rien. Ça a été produit aussi par Julie Corman, qui a fait beaucoup de films, je vais en nommer quelques-uns, ça vaut à peine. Night Call Nurses, Boxcar Bertha, The Young Nurses, Crazy Mama, le très mauvais Dirt Bike Kid, A Chopping Mall, qu'on a vu, ouais. Last Resort avec les deux Corey, The Nest, Brain Dead, celui de 90, Sorority House Massacre 2, donc, elle semble produire beaucoup d'excellents nanars cheap, des séries B d'horreur. Sauf que là, suite au Saturday the 14th de 81, ils ont sorti en 88 une suite aussi réalisée et produite par les mêmes, mais qui a aucun rapport avec le premier, rien du tout. Donc, c'est quoi le synopsis, hein? C'est notre personnage principal à 16 ans qui s'appelle Eddie Baxter. Sa famille emménage dans une nouvelle maison dont ils ont hérité d'un oncle. La famille a une fissure dans la cave dans laquelle s'échappe de la fumée. Eddie réalise que la fumée contient de multiples démons qui prennent possession des membres de sa famille et même de quelques meubles de la maison. Des monstres sortent aussi de la future et commencent à s'installer dans la cave, notamment un vampire, une momie, un loup-garou, d'autres créatures aussi dont la définition reste très floue. Éventuellement, Eddie devient le seul membre de sa famille à ne pas être possédé. On va lui faire une offre qui met toute son existence d'ado laid sans avenir en péril. La survie de sa famille et peut-être même du monde repose sur ses épaules. Bon, par quoi commencer? Avec Ray Waldson et Avery Schreiber dans le film, on sait qu'on va regarder un film de 90% d'humour slapstick et seulement 10% d'horreur. Hein. Donc, Ray Waldson, il est mort en 2001. Il a 152 rôles à son actif. Hein. On l'a vu, entre autres, dans Fast Time at Ridgemont High en 82. L'excellent, avec sarcasme, téléfilm Projet Alf en 96. Il a écrit quelques épisodes aussi de Erie, Indiana, Marshallis Simon. Mm-hmm. Il a fait beaucoup, beaucoup de télévision, en fait. On a Avery Schreiber, en tout cas, une affaire de même. Il est mort en 2002. On l'a vu dans Robin des Bois, Héros en collant, Dracula, mort et très heureux, Galaxina, The Silent Scream en 79. Ouais. Mais lui aussi, beaucoup de télévision. On a dans le rôle de la mère Patty McCormack qui fait en fait la petite fille meurtrière dans le classique de 56 The Bad Seed. Ouais. On a Jason Presson qu'on a vu dans Invitation to Hell, Explorers en 85, un film de ma jeunesse, mm-hmm. Lady in White en 88, ouais. Gremlin 2. On a le célèbre Michael Berryman, hein, One Flew Over the Cuckoo's Nest, hein, le Hills Have Eyes. Ouais. Deadly Blessing, Voyage of the Rock Alien, Invitation to Hell, tellement de films, c'est notre mutant préféré. Ouais. Hein? The Science Project, Weird Science en 85, il a fait le petit rôle, il fait le moteur à la fin. Là, avec
Cut and Run aussi.
Cut and Run, c'est vrai, ben oui. Tellement de grands films, c'est notre mutant chauve favori. Une centaine de rôles. Il était au Comic-Con à Montréal l'an dernier aussi. Mm-hmm. Sinon, on a Joseph Ruskin, 150 rôles, on l'a vu dans Star Trek, Phil Leeds, surtout un acteur de télé. On l'a vu dans Ghost en 90 et Rosemary's Baby en 68. Donc, c'est un slapstick d'horreur avec des monstres, mais tout l'humour tombe à plat.
Toutefois, c'est un film dont le niveau d'absurde atteint un point où on peut pas s'empêcher de glousser du début à la fin. La plupart des scènes sont complètement disjonctées et débiles. C'est un film écrit pour les jeunes, de toute évidence, mais je dirais même pour les garderies. J'ai de la misère à croire qu'un jeune va réellement aimer ce film-là sans avoir un petit côté « qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là ». Exemple, on a les parents qui cuisinent les repas avec des bonbons puis des biscuits. Un des personnages qui se ramasse avec un petit sous-marin dans son estomac. Ce genre d'humour pour enfants, mettons. Là, faites pas non plus d'attente pour avoir des frissons avec l'histoire. Là. C'est presque uniquement des choses bizarres qui arrivent une après l'autre sans réelle connexion entre elles jusqu'à la finale, qui est peut-être la scène la plus risible et amateur de tout le film, mais quelle scène! Je vous lâcherai pas de spoiler. Le scénario aussi tombe à plat, tentant de connecter les scènes ensemble, de mettre la table pour les jeux de mots et les jokes ironiques avec un quotient de pétoncle. Il y a des numéros musicaux aussi dans le film. Ouf, on va en écouter une après. La meilleure pire est probablement quand Charlène, la vampire, qui est jouée par Pamela Stonebrook, chante dans la chambre d'Eddie combien c'est difficile d'être un vampire à cause de la diète constituée à 100% de sang frais. Dès l'intro du film, on nous explique tout, ou presque, avec Eddie Baxter qui parle directement à la caméra en nous racontant que son été avait été très difficile, qu'il avait dû sauver le monde. Tu sais, tout ça, on le sait que c'est un film pour enfants. Je sais même pas pourquoi je trippe sur ce film-là en réalité. Mais il y a un kitsch attachant. C'est un film plein de charme. C'est des sketchs en série qui se veulent humoristiques, mais toutes les blagues sont ratées, puis c'est pour ça qu'on l'aime, ce film-là. On essaie de faire de l'humour intelligent, mais on y arrive pas. C'est exactement ce qui est hypnotisant dans le film. On n'arrive pas à croire qu'il se plante à chaque fois, en fait. Mais là, le film est pas complètement mauvais. Là. Les scènes sont weird, mais même si c'est raté, c'est surprenant et ça arrête jamais. On n'a aucune pause, aucun temps mort, on ne s'ennuie pas. On a des scènes très cool même, relativement bien faites, de monstres en stop motion, style pâte à modeler. Ça, on aime toujours ça. Mais au final, il faut le regarder comme on regarde un nanar, hein, un mauvais film sympathique. Certains l'ont déjà vu étant jeune, donc il peut avoir la touche nostalgique qui entre en jeu, mais au final, on rit jamais pour les raisons que le réalisateur aurait voulu. On le regarde du tout pour son ridicule, son absurde incessant. Je veux pas lâcher de spoiler, mais le combat final avec, disons, le boss de la fin, c'est épique, c'est légendaire. Mauvais.
Oui.
C'est ma scène préférée. Je pense que je regarderais ça. Si je pouvais avoir un réveil matin vidéo, je pense que ça serait une des scènes que je mettrais des fois pour me lever le matin. Moi, je capote cette scène-là. C'est tellement ridicule. J'aurais le goût de la raconter, mais je vais me retenir, là. Si vous ne l'avez pas encore compris, donc c'est un film familial. Si vous avez des kids, vous pouvez le regarder avec, mais vous allez rire plus que lui des nombreuses maladresses du film. Même si vous lisez les rares critiques qu'on trouve en ligne, vous constaterez que peu de gens ont apprécié leur visionnement. Mais je suis pas d'accord. Hein? Seulement, faut le regarder avec un œil différent. C'est clairement un film pour les fans de nanars et de films douteux. Là. Mais je dis quand même ceci à ceux qui s'intéressent pas à ce genre-là. Comment pouvez-vous juger de la qualité d'un long métrage sans avoir vu ce qui se fait de pire? Moi, c'est comme ça que je vois ça. À la suite de Samedi le 14, peut-être bien entrer dans votre horaire d'Halloween pour commencer la découverte du cinéma nanar. Je pense que ça se présente bien. Tu peux faire ça avec ton kid. Puis ça quitte bien une soirée. Même si ça vaut pas les Trolls 2, je pense que c'est une belle immersion pour commencer. Dernière petite chose, le titre original anglais est. Parce qu'on a quand même un show qui parle de VHS. Là. Mm-hmm. Le titre anglais est Saturday the 14th Strikes Back. Ouais. Mais sur la VHS francophone au Québec, ils l'ont simplement traduit par Samedi le 14. Ne précisant nulle part que c'est une suite, ils se sont permis parce que le premier n'avait pas encore été distribué en français. Et à ma connaissance, même encore aujourd'hui, je pense qu'il n'existe aucune traduction pour ce film-là. Ils ont présumé que le public franco donc ignorait l'existence du premier, le seul sous-titre qu'ils ont utilisé étant un film complètement dément. Je vois pas comment ça traduit Strikes Back, mais bon, encore un coup des maudits distributeurs là. La VHS au Québec était distribuée par Malo Film, fait que si vous êtes pas satisfait de ça, vous pouvez toujours les pointer du doigt. Donc c'est ça, la tagline sur la pochette, c'est le film d'horreur le plus drôle depuis Beetlejuice. Je vous confirme que c'est faux. Mais je vais le redire et le redire, j'adore ce petit film. Il va être disponible sur notre blog au www.lesoubliettes.ca. Un bon petit visionnement, vous allez rire, je vous le suggère fortement. Là-dessus, on se laisse en musique avant la capsule de Olivier. On va aller écouter justement une des chansons du film. On s'en va écouter Vampire's Diet, chantée par Charlène la Vampire, qui, mon Dieu, souffre en tant que vampire.
Vous seriez une vampire. Tu peux le dire. Je m'appelle Charlène.
Pourquoi vous êtes dans ma chambre?
Tu as déjà été vampire, toi?
Non.
Mais moi, j'en ai assez de passer toutes les nuits dehors, sans amour, sans amis. Les loups-garous manquent de conversation. Et la cuisine.
I was a girl who liked a nice potato. I remember salads with a juicy fresh tomato. The smell of barbecue. Candlelight and steak for two. I never cared who paid. Check. Then I got bitten on the neck. Now dinner time just goes thud. When all you can live on is human blood. Werewolves can't eat everything, so please don't eat anything. No, my friend, don't even try it. Take me out for lunches. Buy me pretty flowers in great big bunches. But love just hops the boat when I go for the waiter's throat. And all because some dumb lug out there sank his fangs into my jugular. All I want is just one nibble. A saddle for a simple little dish of kibble. There's no sense in even going when all you can order. Hemoglobin. Werewolves can't eat everything. Zombies don't need anything. No, my friend, don't even try it. Living on a vampire's diet. No, 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 no.
Bon vendredi tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'un excellent petit film français, The Demon dans l'île, aussi sous-connu en anglais The Demon is on the Island, sorti en 83, réalisé en 82. Le film a été réalisé par Francis Leroy. Fait intéressant avec lui, qui m'a surpris quand je me suis pris la peine de chercher un petit peu. Il y avait son pseudonyme Jim Clark. Monsieur Leroy, en tant que tel, c'est le seul film d'horreur dans sa filmographie. Il a fait... toute sa filmographie consiste de films pornographiques ou érotiques français. C'est un des premiers producteurs de films français pornographiques dans les années 70.
Ils sont forts là-dessus.
Titre intéressant, dont un qui est hilarant, là, que je sais pas si tu vas le présenter, Marc, mais moi, ce film-là me fait rire. Le sexe qui parle.
Oui.
C'est l'histoire d'une nounne qui est possédée puis qui envoie chier tout le monde. C'est super drôle. Je suis à prendre. Lèche-moi partout. Charlotte mouille sa culotte. Amanda, cette salope. La plupart, bon, on s'entend.
Oui, ça vole haut.
Dont Brigitte Lahaie là, était souvent la star dans ces films-là. Là. Donc, c'est ça. Sinon, il a redonné vie un peu à la série Emmanuel avec Emmanuel 4 en France. Il a fait beaucoup d'Emmanuel pour la télévision aussi, en France aussi. Donc, à son actif, c'est vraiment le seul film d'horreur qu'il a fait.
Bon. Mais un excellent film surprenant, moi, d'horreur. Je trouve. Ouais, moi j'ai bien aimé ça.
Oui, donc ça met en vedette Anne Depéry, je m'excuse, j'ai mis en redire son nom, actrice dont je n'ai vu aucun autre film. j'ai aussi Jean-Claude Brialy, lui, bien entendu, ouais, bon, ouais, l'impresario là, dans l'excellent L'Effronté de Claude Miller. Là, il a joué dans La Reine Margot, il y a une grosse filmographie, cet acteur-là. Et Pierre Santini qui fait Le maire de la ville. Donc, synopsis rapidement. C'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive sur une île, pense un petit peu à la Grande Séduction.
Oh ouais, ça, j'ai pensé la même chose quand le film a commencé. Hein? Ouais, ouais.
Puis elle arrive là-bas.
Ben, une docteure, ça, faut pas.
C'est ça. C'est elle vient remplacer quelqu'un. Un médecin sur l'île, tout le monde est content de la voir. Est excité de la voir, mais il y a un autre médecin aussi, qui est justement joué par Jean-Claude Brialdi, le docteur Marshall, qui a des pratiques douteuses, si on veut. Donc, dès son arrivée, les accidents cumulent. Donc là, on parle d'accidents de produits achetés dans une boutique de l'île, surtout des produits ménagers. Donc là, on parle que ce soit un fourneau, que ce soit un percolateur, que ce soit un petit nounours qui joue du tambour, que ce soit un couteau électrique pour couper de la viande. Il y a des gros accidents dans ce film-là. T'sais. Fait que pensez un petit peu... à Final Destination. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des petits échos à ça, surtout une
ouais,
scène.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Moi, je le vois.
Des petits échos à ça. Sinon, là, elle, dès son arrivée, l'attitude... À chaque fois que j'écoute ce film-là, puis que ça fait des années, tu l'aimes pas. T'es comme, coudonc, pourquoi t'as l'air bête de même? Elle a l'air bête.
Tout le long.
Elle est attriquée comme une carte de mode. Puis là, tu te dis, ben, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es malheureuse comme ça? Puis là, il y a des petits flashbacks petit à petit. Finalement, bon, qui te montre jusqu'à la fin du film pourquoi elle est malheureuse comme ça. Vendra pas le punch, même si c'est prévisible au bout. Donc, en plus de ça, elle fume. Ça fume. Il y a une scène hilarante dans ce film-là où elle annonce une femme vraiment nonchalante. Bon, félicitations, madame, vous êtes enceinte. Puis elle s'allume une cigarette, puis elle fume dans la face.
J'avoue que j'ai fumé. J'avoue que j'ai mis le film. Moi, je fume pas en dedans chez nous. Mm-hmm. Je suis fumeur. Puis j'avoue que j'ai arrêté le film 3-4 fois parce que ça, j'avais trop le goût de fumer. Là.
Elle fume tout le temps. Tout le temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand ces accidents-là commencent, elle décide de rester sur l'île, elle trouve ça bizarre, un soir, bon, elle se laisse enfermer elle-même dans le magasin où tous ces articles-là sont achetés, puis elle voit quelque chose, je peux pas trop spoiler, puis elle se rend à la maison, si tu veux, des propriétaires du magasin qui sont affiliés avec le médecin, docteur Marshall, la ouais. famille, qui parle à son ordinateur. Là, on parle d'un ordinateur là, t'sais, le noir et avec l'écriture vert, là, les vieux. Puis, donc, elle essaie d'illustrer le mystère. Pourquoi le monde meurt? Pourquoi qu'il y a des accidents comme ça?
Je pense qu'on peut quand même, sans spoiler, je pense qu'on peut quand même préciser où ça va rejoindre Final Destination, pourquoi les objets... Je pense que c'est un film... Moi, ça m'a même rappelé un peu des films comme The Refrigerator ou The Video Dead, où c'est des films d'horreur d'objets du quotidien.
Oui.
C'est-à-dire, c'est les objets ménagers qui sont les meurtriers dans l'histoire, finalement.
Oui.
Je pense pas que ça, c'est trop de trop en dire de lancer ça comme
non,
ça.
Non, mais c'est pas que des appareils. Mais comme tu dis, c'est plus des objets du quotidien.
C'est
là. Tu sais, quand on passe vraiment d'un fourneau à un toutou, c'est vraiment, comme tu dis, des objets du quotidien.
Anodin.
Qui. Il y a une malfonction là-dedans. Là.
Ouais.
Donc, pourquoi ça arrive? Donc, elle va se rendre jusqu'au point. La finale est quand même bonne, étrange.
Moi, j'avais peur de ma cafetière là, après le film. Là.
T'avais peur qu'elle te saute
moi,
dans
moi,
la face.
Moi, je suis pas rentré de la cuisine de la journée après. Là.
Mais il y a un bon petit mot de ce film-là. C'est un bon film d'horreur français. C'est pas assez connu, ce film-là. Il n'y a pas eu de sortie DVD.
Non, c'est un film très rare.
C'est rare. Puis souvent, dans le groupe des collectionneurs de films d'horreur du Québec, je le vois passer en photo. Puis je me dis, ben pourquoi vous vendez ce film-là? C'est rare, c'est bon. Puis ils vendent ça 2-3 piastres. Je me dis, voyons donc. C'est très, très bon, ce film-là. Il a gagné un prix en 1983 au Festival d'Avoriaz. C'est les fameux festivals d'Avoriaz bon, qui étaient comme un peu les fantaseux ici, mais en moins hot. Donc, jusqu'en 93. Donc, pour le prix de la suspense. Et puis, je dirais à tout le monde qui sont capables de trouver le film, mais là, qui va être disponible sur YouTube.
Il est disponible sur notre page, sur notre blog.
Oui, de donner une chance à ce petit film-là parce que l'acting est bon. Tu sais, pour un petit film comme ça, l'acting est bon, l'atmosphère, la musique est très, très bonne. Puis la finale aussi qui est bizarre.
La finale est weird.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des petit hommage, comment je pourrais dire, bon, Frankenstein, il y a des bouts à la Poltergeist, si on peut dire. Ouais. Il y a un petit bout qui fait penser, bon, à du giallo d'Argento, notamment Suspiria, une petite scène dans Suspiria. Puis aussi Phenomena. Moi, je trouve que la finale, un petit peu des personnages finales du film que je peux pas nommer, est un. Ça me fait penser à Phenomena un petit peu.
Mais tu sais, t'as nommé Poltergeist, puis ça ramène encore ça, là. Oui. Tu te demandes au début si c'est pas un film de maison. Mm. Bon, il y a d'autres détails qui te font douter, mais tu te demandes au début si c'est pas une histoire de fantôme. Ben, non, c'est ça, Poltergeist, parce que c'est les objets qui s'animent. Oui. Puis là, tu te demandes, bon, c'est quoi cette histoire-là d'objets qui s'animent?
Oui.
On a l'impression de regarder un film de fantôme qui possède les objets ménagers, mais finalement, ça déraille assez rapidement. Là.
C'est dur d'en parler sans dire pourquoi ça bouge.
Ouais, c'est ça, j'essaie.
On peut pas dire pourquoi.
Non, ça me prend des surprises.
C'est innovateur, ça ressemble à aucun autre film. C'est un film sortirait comme ça aujourd'hui, ça pognerait, je suis sûr.
Je pense
que pour un film de 82, d'un réalisateur qui a fait que du film érotique puis de la porn, c'est très, très bon.
Mais penses-tu que le fait qu'il soit méconnu ou moins populaire, ça vient du fait que c'est un film d'horreur français? Surtout pour l'époque?
Non. Le film ici, à cette époque-là, en France, a très bien marché. Ici aussi, je veux dire, c'est oublié. C'est un film qui est oublié. Il n'y a pas eu de ressortie.
Ouais.
Il n'y a pas eu d'autres releases. C'est dommage. Je serais le premier à la pre-order, c'est dans mon top de mon top qui finit plus.
Ouais. En fait, ça va être un show de top, là.
Ouais, ça n'a pas d'allure. Moi, comme tu sais, je peux pas faire de top 50, c'est impossible. Ça va être un top 60, en tout cas. Puis, pour des raisons personnelles, j'ai grandi avec ce film-là. Je pense que, gars, comme toi, tu l'avais pas vu, je te l'ai recommandé, puis tu sais, t'es agréablement surpris.
C'est une belle surprise.
Petit film, tu sais, fait que je le recommande, vraiment. Puis, pour ceux qui s'intéressent, bon, bien entendu, le TNA, c'est un film européen, un film français, donc vous avez une paire de boules puis un pénis dans le film, donc c'est votre truc, là. Je sais qu'il y en a qui courent après ça, écoutez avec ouverture d'esprit. Moi, je trouve que ça vaut la peine de faire un petit détour, puis si vous avez ce film-là à votre possession, ne vendez-le pas ou contactez-moi, je vais l'acheter.
Ouais, c'est ça, on va le prendre, nous autres.
Oui, on va le prendre, nous autres.
Cool. Merci, Olivier. Je vous rappelle que les films sont disponibles sur notre blog, lesoubliettes.ca. Là, c'est une version qui était déjà sur YouTube, donc en version originale française, mais avec des sous-titres en anglais, si je me trompe pas. C'est le mois d'octobre, c'est le mois de l'Halloween, donc j'ai un petit volet que je vais partager avec vous autres pendant le mois, c'est le volet anthologie d'horreur, parce qu'en VHS, il y en a eu beaucoup, c'est des cassettes de compilation de scènes de violence ou de films d'horreur, il y en a eu quelques-unes, sauf que là, on est serré par le temps aujourd'hui, fait que je commence avec le pire, c'est Slasher Mania volume 1, aussi connu sous Slasher Maniacs volume 1, sorti en 1990. C'est américain. On ne sait pas qui a réalisé ça. C'est produit par PPI Entertainment, distribué par Parade Vidéo. C'est un montage de 30 minutes. Puis démontrer le mensonge derrière la boîte, je vous ai traduit le synopsis qui est en anglais. C'est le vidéo de l'enfer. En tout cas, les mauviettes et les cœurs sensibles sont avertis. Regardez cette vidéo et vous dormirez la lumière ouverte. Mais cette vidéo démoniaque, horrible et brutalement flagrant, les producteurs ont combiné les scènes les plus sanglantes et terrifiantes tirées des films d'horreur les plus méconnus du monde, des classiques comme Texas Chainsaw Massacre, Dr. Fives Rises Again et plusieurs autres. Ce divertissement saccage vos sentiments avec un couteau de boucher de 12 pouces. Ça, c'est ce qui est écrit derrière. Mais dans la réalité, c'est très mauvais et plate. juste la phrase, tu sais, avec des scènes terrifiantes tirées des films d'horreur les plus méconnus du monde. Non. On a des scènes de Night of the Living Dead en noir et blanc qui leur a rien coûté parce que c'est un film qui est libre de droit. De Alice, Sweet Alice, mais en plus de nous montrer... genre trop de scènes, en plus ils nous spoilent le film, ils nous montrent c'est qui le tueur de Alice Sweet Alice dans leur montage, puis après ça on a deux bandes annonces, Texas Chainsaw puis Dr. Fives Rises Again, c'est tout. Ça, c'est les films les plus d'horreur les plus méconnus du monde. C'est n'importe quoi. En plus, la qualité des scènes laisse grandement désirer. Rien ne colle les scènes ensemble. Hein. On va le voir dans les prochains épisodes. Souvent, il y avait des mises en scène pour présenter les scènes, puis des très cool en plus. J'ai hâte de vous présenter celui de la semaine prochaine, mais pas cette semaine. On n'a aucune présentation. C'est très aléatoire. Ça n'a rien coûté à produire et ça paraît. L'unique but de cette VHS est de la vendre, pas de nous divertir. Aucun effort n'a été mis dans la production. Il existe un volume 2, mais il est aussi inutile que le premier. Je l'ai quand même partagé sur le blog. Si l'envie vous intéresse, d'y jeter un œil. J'aimerais quand même remercier Eric Saint-Cyr de m'avoir vendu ces cassettes-là il y a un petit bout de temps, il y a un an. Je me rends compte que c'était je ne vous ai pas payé cher, mais je me rends compte que c'était cher payé. On se revoit là-dessus la semaine prochaine avec une bonne anthologie d'horreur, ça je vous promets. On s'en va prendre une petite pause musicale. On s'en va écouter Carlo Malenka qui nous chante Carlo Savina. Ouais, on t'as une note là, comment il s'appelle lui? Carlo Savina qui nous fait Malenka, une chanson tirée du film Fangs of the Living Dead. On vous revient tout de suite après. On est de retour aux oubliettes. On est une émission sur les vieux VHS. Fait qu'à chaque émission, on vous sort une VHS insolite, une cassette bizarre trouvée dans les sols d'église. Cette semaine, ben là, c'est l'Halloween qui s'en vient, hein. Fait qu'on va parler d'Halloween. Puis là, cette semaine, on a quelqu'un qui nous parle d'Halloween en mal. Ça veut dire des Christian Freaks, un vidéo de manipulation, hein, des mensonges religieux de propagande savants. On a Pagan Invasion Volume 1. Le sous-titre, c'est Halloween Trick or Treat. Sorti en 92, d'une durée de 55 minutes avec Chuck Smith et Carol Matriciana. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la compagnie de production Jeremiah Films qui appartient à Patrick Matriciana. C'est le premier volume sur 13 de vidéos d'information sur le mal sous toutes ses formes dans le monde très croyant des hommes effrayés par Dieu. On est un peu serré par le temps, je vais vous les énumérer très rapidement. On a Invasion of the Godman, c'est le volume 2. Volume 3, ça nous dit que la méditation, c'est Satan. Le volume 4, c'est la psychothérapie. ou Magie Noire. Oh my God. Volume 5, c'est sur le Nouvel Ordre Mondial. Volume 6, c'est ça démentit la théorie de l'évolution. Volume 7, c'est Physics or Metaphysics, encore sur l'évolution. Volume 8, Preview of the Antichrist. 2 de volume 10, volume 11, Contre les Mormons, puis à quel point les Mormons, c'est Satan. Volume 12, Les religions versus le christianisme. Puis volume 13, Doorway to Satan. Hein? Donc, ça tente d'exposer... Le volume 1 tente d'exposer les horreurs de la fête d'Halloween, hein, avec des outils puissants tels que des effets spéciaux d'animation poche en CGI des années 90, du blue screen, des séquences vidéo honteusement volées à d'autres films. Vous allez être témoin de deux chrétiens charlatans, dont l'une est la femme de Patrick Matriciana, le producteur, nous divulguant la vérité sur l'industrie du cinéma d'horreur. Selon eux, le film Frankenhooker est un des responsables de la violence humaine. Hein?
Et ça, c'est tellement drôle.
Ah, oh, c'est ça hilarant. Bon là. Non, non, non. Là, on parle des cultes sataniques, les cultes païens, le tout en exposant la crédulité et l'étroitesse d'esprit de leur propre chrétienté. À sa sortie en 92, il paraît, je sais pas si on peut jamais leur faire confiance à eux autres, paraît qu'il y a eu 30 000 exemplaires de vendus. Ça, c'est bien les Américains. Il est encore disponible chez Jeremiah Films en format DVD. Ce qui démontre encore une fois que la spécialité des croyants chrétiens, c'est d'escroquer leurs semblables. Hein? Le synopsis de la VHS comme tel, je vous l'ai traduit, c'est ça, c'est un professeur d'école publique a récemment demandé à ses étudiants de 9 ans comment ils voudraient célébrer Halloween. Les résultats sont choquants. 80% ont dit qu'ils aimeraient tuer quelqu'un. 80%? Hey, hey, yeah, hein, come on. De toute évidence, les jeunes ne sont pas tous aussi extrêmes. Mais est-ce que l'Halloween est simplement une fête de plaisir innocent ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre derrière? Chuck Smale et Carol Matriciana soulèvent le voile sur les origines païennes de la cueillette de bonbons, des citrouilles lanternes, des sorcières sur leur balai et d'autres traditions d'Halloween. Nos caméras vous mèneront dans un vrai couvent de sorcières pour capturer les vrais rituels mystiques de l'Halloween. Ces cérémonies sont réelles, pas de reconstitution. Lorsque vous connaîtrez les origines de Halloween, votre opinion sera défiée pour toujours. Man, j'ai tellement viré violent en regardant ça.
Tu sais, quand t'as du temps à perdre dans ta vie, là, oh, sérieusement, pour t'attaquer à des petits niaisages de même.
Hey, attends.
Frankenhooker, c'est...
Oh my God.
C'est beau,
oh, non, non.
Ça, d'entendre ça. Là.
Hey, attends. Drette en partant, ça attaque l'école publique. L'école publique, c'est déjà, ça part là le mal de l'Halloween, parce que c'est eux autres qui motivent les jeunes à aller
à
faire ça.
Tout,
donc, okay. L'école publique, c'est Satan. Ouais. On nous apprend que l'Halloween, c'est une grosse business, puis bon, là-dessus, ils ont pas tort, là. Et ils vont parler des dangers des films d'horreur en montrant des pochettes de La Petite Boutique des Horreurs et Frankenhooker. Come on! LOL! Comment tu peux ne pas savoir ce qu'est La Petite Boutique des Horreurs?
Ben oui,
voyons donc. On nous apprend qu'après avoir vu des films d'horreur, on pourrait reproduire la violence dans la réalité. C'est n'importe quoi. On a des entrevues avec des vieux satanistes, des ex-satanistes qui auraient fait des sacrifices de bébés puis des messes noires, puis ils nous racontent ça. Des entrevues avec des sorcières a.k.a. des hippies en soutane. On apprend que parce que Charles Manson est méchant, l'Halloween, c'est le mal. Donc, je l'ai partagé sur le blog. Vous irez voir ça. Vous allez rire en tabarouette. Ça, je vous le promets. Donc, c'est déjà la fin de l'émission. Ça va vite. Trop vite. Hein? Peut-être que l'année prochaine, on va animer un show de 2 heures. Il y a tellement à jaser. Tellement à jaser. J'ai l'impression qu'on n'a presque pas discuté aujourd'hui. Mm. On s'est juste lancé nos informations.
Ouais.
Mais bon, c'est le deuxième épisode. Hein? On va s'adapter. Puis la prochaine fois, ça va être mieux. Plus qu'hier, moins que demain.
Ouais.
Sur ce, ben, je ne sais pas vous autres, mais moi, ça commence à frissonner de mon bord.
Ouais.
Hein? L'Halloween approche à grands pas.
Ouais.
Hein? Vous commencez à monter vos costumes puis tout ça. Puis là, plus on avance, puis plus ça va être horrifiant. Les cassettes dont on va vous parler. La semaine prochaine, on a encore un invité. On reçoit Total Crap qui va aussi faire une présentation pendant le Festival Spasme. Ça va être vraiment cool. Encore une fois, merci Marc Lamotte d'être joint à l'équipe. Est-ce que tu suggères l'émission à tous? T'as-tu aimé ton expérience?
Tous ceux qui écoutent l'émission, je vous encourage à l'écouter encore la semaine prochaine. Puis ceux qui ne l'écoutent pas, ben, ils nous entendent pas. Voilà.
Bon, parfois, on n'a pas entendu le couteau sur ta gorge. Sur ça, ben, on se laisse avec une chanson qui m'a été offerte par par Étienne Forêt de Radio Cochonnerie. Allez voir ça, radiocoche.org. C'est « Viens dans ma bouche », chanté par Nanette Corey, hein, parce qu'on a commencé l'émission sous le thème du sexe. Pourquoi ne pas les finir en érotisme?
Simon, il y a un saut de Sharon, là.
Ah oui, je suis on, là. Fait que, on va aller écouter « Viens dans ma bouche ». Merci d'avoir été là. Joignez-vous à nous sur Facebook, sur Twitter. Venez nous voir sur le blog, plein de trucs à regarder, lesoubliettes.ca. À la semaine prochaine. Bye, mes petites créatures.
Je la vois s'épanouir entre mes doigts, j'approche mes lèvres et la reçois, je reste bouche bée, incapable de parler. Hier, j'ai longtemps pensé de quelle manière j'allais t'aimer. J'ai trouvé, et je crois que tu vas.